Bonjour à tous, donc correction de la deuxième partie du chapitre de géographie qui s'intitule L'Union européenne, un territoire de contraste. Donc l'objectif de cette séquence était double, hein, de voir non seulement les inégalités au sein de l'Union européenne, mais aussi de comprendre comment l'Union européenne cherche à réduire ces inégalités. Donc le territoire de l'Union européenne est le résultat d'adhésions successives. De 6 membres à 1957, on est passé désormais à 27 États. Et l'Union européenne, vous l'avez vu dans la première partie, s'est développée vers l'Est. C'est donc un espace en construction qu'on appelle à géométrie variable, puisqu'il manque d'unité, puisque les intérêts des États sont divergents et les contrastes de développement sont très importants. D'une part, on a 19 sur 27 États membres qui appartiennent à la zone euro, où la monnaie commune est adoptée. Ainsi, par exemple, le Danemark, la Pologne ou encore la Roumanie ont refusé d'adopter la monnaie commune qu'on appelle l'euro. D'autre part, l'Union, elle est marquée par des écarts de richesse importants. En Europe de l'Ouest figurent les régions au niveau de vie qui sont très supérieures à la moyenne de l'Union européenne, où le PIB par habitant est le plus élevé. C'est ce que vous aviez sur le document 1. Cet espace correspond à ce qu'on appelle la mégalopole européenne, qu'on surnomme aussi la dorsale européenne. Ça constitue le véritable moteur de l'Union, qui concentre la plus forte densité d'hommes et de richesses. La dorsale européenne, pour la situer, elle s'étend de la métropole londonienne, c'est-à-dire le sud de l'Angleterre, jusqu'au nord de l'Italie, avec des villes importantes comme Milan, Turin et Gênes. Elle passe par le Benelux, c'est-à-dire Belgique, Pays-Bas, avec des villes comme Bruxelles, Rotterdam et le Luxembourg. On compte aussi dedans Paris, l'axe rhénan franco-allemand, c'est-à-dire de part et d'autre de la frontière qui est le Rhin, avec des villes comme Strasbourg, Cologne, Stuttgart, par exemple, et la Suisse, Zurich, Genève. Hein, ce que lorsque vous étiez petit, on appelait ça la banane bleue, si certains ont des souvenirs de l'école primaire. Ces régions les mieux intégrées et les plus riches appartiennent essentiellement aux premiers États qui ont rejoint l'Union, c'est-à-dire dès 1957, lorsque ça s'appelait encore la CE. Au-delà de cette région moteur, il y a des régions riches qui sont bien reliées à ce centre, où se situent là aussi de grandes métropoles. Elles constituent ce qu'on appelle une première périphérie. Et enfin, plus loin, il y a des ensembles plus pauvres qui se situent aux marges orientales, c'est-à-dire les derniers pays les plus intégrés à l'Union européenne, de l'Europe de l'Est, et méridionales au sud, avec la Grèce, le sud de l'Espagne, ou du Portugal aussi. Donc il y a presque un mouvement centrifuge, hein, qui part du centre vers les extérieurs, vers les périphéries. Avec région centrale très intégrée, périphérie proche assez bien intégrée, périphérie nouvelle puisque récemment intégrée dans l'Union européenne, à développer, hein, qui sont moins intégrées. Et donc les inégalités de développement s'observent clairement avec l'étude des travaux agricoles, les deux photos que vous aviez, en France où on voit une agriculture mécanisée, intensive, qui produit en grande quantité, et sur la deuxième photographie, l'activité agricole en Roumanie où les techniques demeurent plus traditionnelles, le travail on le voit reste manuel et on observe que la force animale est aussi utilisée. L'Union européenne conduit donc une politique de rééquilibrage qu'on appelle la politique de cohésion régionale, avec un triple objectif. Non seulement on veut réduire les inégalités entre les pays et les régions, puisque tout ceci manque d'unité, on cherche à permettre une meilleure intégration de tous les États, notamment les derniers qui sont entrés dans l'UE, et enfin on veut apporter un ensemble plus harmonieux et plus homogène à l'Union. Donc, clairement, on souhaite renforcer l'unité de l'Union européenne. Et cette politique de cohésion régionale peut prendre des formes variées. Il y a par exemple la reconversion de régions industrielles qui étaient en déclin. Vous aviez la photographie de Lodz en Pologne, par exemple. Ça passe par l'amélioration d'infrastructures routières pour désenclaver des régions périphériques qui sont avec l'objectif de mieux les relier aux régions centrales. Ça peut être la rénovation urbaine de quartiers en difficulté, essayer de les rendre plus touristiques. Il y a eu des exemples assez récemment en Croatie, par exemple. Et puis, bien sûr, ce sont des aides financières aux espaces ruraux qui subissent un abandon de l'activité agricole. On parle alors de déprise démographique. À propos de la troisième partie que vous aviez à préparer sur la place de la France dans l'Union européenne, toujours en géographie. L'objectif était de voir comment se marque l'intégration de la France à l'Union européenne. C'était même le titre d'ailleurs de la problématique. Vous aviez deux exemples concrets avec la Guyane à étudier. Donc là, l'exercice était simple, hein, il consistait à recopier les documents. On peut retenir cependant que en France, l'influence de l'Union européenne est différente selon les territoires, selon leur niveau de richesse, de dynamisme et d'intégration. Rappelez-vous ce qu'on avait vu notamment avec les espaces de faible densité, avec l'exemple qu'on avait vu, c'était quoi déjà? Les Cévennes, hein, qui est un espace beaucoup moins intégré à la mondialisation que l'aire urbaine parisienne que nous avions étudiée, par exemple. Avec l'exemple de la Guyane, qu'est-ce qu'on cherche à voir? Que les territoires ultramarins, donc on dit de l'outre-mer, comme la Guyane, et les territoires ruraux aussi, sont ceux qui bénéficient le plus de la politique de cohésion régionale de la part de l'UE, notamment par l'intermédiaire de ce que vous avez vu qui s'appelle le FEDER, le Fonds européen de développement régional, donc qui verse des sommes destinées à mener à bien des projets. Il reste enfin l'activité concernant le réseau ferroviaire européen auquel la France participe, et notamment l'exemple de la liaison Lyon-Turin, que ses détracteurs appellent également le notable. Donc voici la correction. Donc, compte tenu de sa position géographique et de l'effacement des frontières, la France doit penser son territoire non plus dans une simple perspective nationale, mais bien dans sa dimension européenne. Cela passe essentiellement par une volonté d'intégrer les réseaux de transport français au reste de l'Europe. Si la connexion autoroutière de la France et ses voisins est déjà bien réalisée, elle est encore en cours de construction pour les lignes à grande vitesse, qu'on appelle les LGV. Elles sont construites pour permettre la circulation de trains au-dessus de 250 km à l'heure, notamment donc les célèbres TGV. Et là, l'exemple que vous aviez à étudier, c'est donc la liaison ferroviaire Lyon-Turin, qui a été décidée entre l'Union européenne, l'Italie et la France, et il s'agit bien d'un projet d'aménagement de LGV, ligne à grande vitesse. Vous aviez cinq questions sur cette étude de cas. Première question. Cette ligne doit relier Lyon en France à Turin en Italie, en passant par le massif de la Chartreuse en Savoie. C'est ce que vous aviez dans le document 3. Et elle relie donc la Chartreuse au Val de Suse en Italie, c'est-à-dire le nord de l'Italie. Pourquoi on peut considérer la liaison Lyon-Turin comme un chaînon manquant? Eh bien, elle peut être considérée comme un chaînon manquant car sa création permettrait de connecter des lignes grande vitesse existantes, pardon, en Europe de l'Ouest. Vous avez vu la France, l'Espagne, la Belgique et même Londres avec des lignes d'Europe centrale en Slovénie. Sur votre carte, vous aviez Ljubljana par exemple, voire même l'Europe de l'Est puisque on voit une liaison avec la capitale de l'Ukraine qui est Kiev. Pour la question numéro 3, quels étaient les atouts? On relève une meilleure accessibilité au réseau de transport ferroviaire européen, tant pour les voyageurs que pour le transport de marchandises. Ça permet de créer une alternative moins polluante au fret routier et autoroutier qui est déjà très chargé, très dense. Et enfin, ça permet d'apporter une aide bénéfique pour une région transfrontalière qui comprend à la fois la région Rhône-Alpes et l'Italie du Nord. La question numéro 4, pourquoi le projet est coûteux? Bah parce qu'il réclame surtout la construction de tunnels qui passent sous les Alpes. Et pour info, vous aviez vu dans un document que le projet était estimé à 26 milliards d'euros. Le dernier rapport en 2016 qui était sorti avait une somme à peu près équivalente puisqu'il annonçait une somme de 25 milliards. Enfin, pour la question numéro 5, vous deviez établir les pour et les contre de ceux qui s'intéressent à ce projet. Pour, essentiellement, c'est des questions écologiques. C'est moins polluant que les transports par la route. C'est aussi moins dangereux que l'utilisation massive des axes de transport qui sont déjà très fréquentés dans la région. Hein? Pour ceux qui sont contre, ils avancent avant tout le coût, on vient de le dire, 25 à 26 milliards d'euros, c'est une somme importante. Une utilité publique qui est limitée, voire inexistante, puisque des infrastructures de transport, y compris ferroviaires, existent déjà. Et puis, les zones d'habitation qui sont traversées vont être impactées. Il y aura des nuisances sonores et transformations du paysage. Pour les biens, c'est-à-dire les immeubles et les maisons devant lesquels va passer la ligne, il y a une perte de la valeur. Hein. Si on veut revendre une maison où il y a la ligne qui passe juste devant notre balcon, ça amène une perte de la valeur du bien foncier ou immobilier. Et enfin, les travaux ont un impact négligeable pour l'environnement, tant pour la montagne qui est percée que les ressources naturelles en eau avec le percement des tunnels. Donc une dernière information, cette ligne ferroviaire européenne, elle a été décidée il y a longtemps, hein, lors d'un sommet européen qui date de 1991, donc il y a pratiquement 30 ans. Et les travaux, après de nombreuses discussions, de nombreux projets qui ont été avortés, ont enfin débuté en juillet 2016. Ils sont actuellement en cours. Voilà.